Je vous propose de lire une partie de l'Épître aux Colossiens. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse pour leur vie ensemble, leur vie dans l'Église, dans la communauté. Et il donne là des paroles que je pense être essentielles. Nous n'allons pas nous arrêter sur tout ce qui nous est dit dans le petit passage que nous allons lire, mais nous y ferons référence. Au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, nous allons lire les versets 12 à 17. 12 à 17. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Et nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. Les versets 21 à 35. Matthieu, chapitre 18, verset 21. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Et dans la tradition de l'époque, on pouvait pardonner jusqu'à 3 fois. Donc Pierre va jusqu'à 2 fois plus que ce qui était demandé. « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, Son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Le pardon est certainement le plus beau geste, le don qui transforme. Pourtant, est-ce que c'est la richesse la moins bien partagée? Est-ce que ce n'est pas ce qui manque le plus à notre société malade, autant au niveau spirituel, avec Dieu, que relationnel, avec les autres? C'est vrai qu'on peut simplifier le don et le dénaturer, un peu comme la croyance qui est facilement assimilée à la vraie foi. Par exemple, on apprend à nos enfants à dire le mot magique. Ce n'est pas simplement le mot merci, c'est le mot pardon. Pour penser que le problème est vite réglé. Et ouf, la punition ne sera pas là. L'enfant peut très bien se servir de quelques mots de regret, comme chantage pour ce que ses parents ou que son frère ou sa sœur le laissent tranquille. Et il grandira alors et agira devant Dieu comme envers les hommes. La superficialité de son regret le conduira à vivre plus difficilement une vraie repentance. Pas facile non plus d'être sûr que quelqu'un est rétabli dans sa relation avec Dieu parce qu'il a prié en demandant pardon à Dieu. Alors pour tout cela, l'important c'est dans la profondeur de l'attitude intérieure. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. À quel prix est accordé le pardon ? Alors je m'appuie sur ce texte de l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens chapitre 3 verset 13. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi mutuellement. D'abord, arrêtons-nous un peu sur la dimension du pardon de Dieu. Quelle est-elle ? Elle est très, très profonde. Le désir de Dieu ? Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Oui, de nouveau tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés. Et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Prophète Michée, chapitre 7. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Premier épître de Jean, chapitre 1er. Pour nous pardonner, la Bible nous dit que Dieu nous justifie. Cela signifie que nous ne sommes pas sans péché, mais qu'il nous déclare juste. La justice de Jésus est mise sur notre compte. C'est une question de justice, avant tout, qui nous garantit ce pardon. Pour rendre possible cela, il a fallu que la colère de Dieu, qui était normalement sur nous, soit apaisée. Comment cela ? C'est grâce à la mort de Jésus qui a pris notre condamnation comme s'il en était responsable. Que Dieu nous déclare juste et qu'alors nous ne sommes plus séparés de lui. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans sa seconde épître, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. » Pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Certitude, notre Dieu est plus grand que tout, son pardon est plus grand que le poids de notre péché. Rien ne peut l'empêcher d'effacer les fautes les plus terribles à cause de son amour et de sa justice. Alors, à quoi est lié ce pardon et qu'est-ce qu'il implique pour notre comportement ? Parce qu'il nous faut faire attention. Avec des paroles, les dernières que nous avons citées, certains on déduit de la promesse du pardon de Dieu que tous seraient sauvés et tous seraient sauvés et pardonnés. Et la Bible ne va pas dans ce sens. Pourquoi ? Parce que le pardon est toujours une affaire entre deux personnes. Aux États-Unis, au début du XVIIIe siècle, un certain Winston, pour avoir tué un homme, avait été condamné à mort. Et voilà que le président Andrew Jackson l'avait gracié. Mais notre homme, Winston, refuse cette grâce. Et la Cour suprême a déclaré alors « La lettre du président ne possède un pouvoir d'acquittement que sous réserve d'acceptation de la personne condamnée. » Et le meurtrier est mort. Juste avant l'affirmation du pardon de Dieu, il est dit que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a là donc deux conditions pour recevoir le pardon de Dieu. Être prêt à changer de vie, réellement, en avoir le désir profond, et retourner à Dieu. Alors, certitude, dit Ésaïe à travers ce passage, Dieu pardonne même le plus coupable. Ou encore, ce que l'apôtre Jean a écrit dans sa première épître que nous avons lue tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La condition est donc de les lui avouer, même s'il les connaît. Le pardon ne peut être donné qu'à cette condition. David, ce qu'il rapporte dans le psaume 32, montre qu'il s'enfonçait mais jusqu'au plus profond, psychologiquement, spirituellement, tant qu'il refusait de confesser ses fautes à Dieu. Il dépérissait spirituellement et physiquement aussi. Et c'est quand il a avoué sa faute, alors il a été délivré de ses péchés. C'est un peu comme l'obsolescence programmée. Hein ? Les machines donc sont programmées pour être dépassées ou même se casser au bout du temps prévu par le constructeur. Mais alors quel lien y a-t-il avec nos dettes et le pardon de Dieu ? Eh bien, ce qui est programmé par Dieu, c'est qu'au moment décidé par lui et qui est lié à notre demande de pardon, notre dette est cassée. Elle n'a plus de valeur négative. C'est prévu, c'est programmé ainsi par Dieu, selon sa justice, pour notre bonheur. Pour vivre ce pardon, j'ai pensé à cette deuxième condition, je trouve dans le récit de la femme adultère qui est accusée par les pharisiens, cette autre condition, qui est d'être libérée du regard des autres. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Cette femme est traînée par les pharisiens qui lui avaient clairement fait sentir combien elle était fautive. Et Jésus comprend que pour cette femme, afin de recevoir le pardon qu'il va lui accorder, elle doit être débarrassée de quelque chose d'important. Après que les accusateurs soient tous partis, les uns après les autres, parce qu'ils se sentaient repris dans leur conscience, le premier point que Jésus aborde est celui-ci. Eh bien, où sont passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? Avant de dire qu'il ne la condamnait pas, il veut supprimer une pensée qui empêche de vivre, de recevoir le pardon de Dieu. Les pharisiens ont marqué de leur pouvoir par leur moralisme, par le regard de soi-disant juste, cette femme qui avait conscience de sa faute, elle était écrasée par eux, par ce regard qu'ils lui avaient porté. Et Jésus, pour lui faire comprendre la grandeur du pardon de Dieu, l'amène, par des questions, à enlever le poids et cette culpabilité humaine en premier lieu. Dans ce travail sur nous-mêmes, autant pour recevoir le pardon de Dieu que pour donner le nôtre à d'autres personnes, des éléments humains peuvent entraver la dimension que Dieu veut nous faire vivre et la profondeur du pardon de Dieu qui seul libère. Nous pouvons être culpabilisés, écrasés, moins par le regard de Dieu sur nous que par celui des hommes. Et il faut pour ça en être d'abord délivré. Je vois ensuite une autre condition pour vivre le pardon. Dans la prière que Jésus donne à ses disciples, Jésus parle de ce qui semble être une condition. Notre Père qui es aux cieux, et je saute un petit peu, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Matthieu chapitre 6, verset 12. Littéralement, cette parole pourrait être traduite ainsi, « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. » Cette dette, ce sont les péchés, nos péchés, que Dieu veut supprimer, juridiquement parlant. C'est une dette que nous devons à Dieu. Alors, est-ce que le pardon, la remise de la dette, que nous accordons aux autres pour leurs fautes envers nous, conditionne le pardon de Dieu? Est-ce que ce « comme nous pardonnons » signifie « à la manière d'eux » ou est-ce que c'est « à la mesure de notre pardon » qu'alors nous pensons que nous recevrons le pardon de Dieu? Mais ce « comme » peut avoir une autre portée et parler d'un but, d'une intention. Et il peut être donc traduit par « afin que », »,« pour que », »,« en vue de ». Et dans ce cas, notre pardon est une conséquence du pardon que nous avons reçu de Dieu. C'est parce que nous ne sommes plus redevables envers lui que nous pouvons, que nous devons laisser les dettes que les autres ont envers nous. Et c'est ce que Jésus enseigne très nettement, quelques chapitres plus loin dans cette parabole que nous avons lue tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 18. Il montre qu'en ne pardonnant pas aux autres leurs torts, nous prouvons que nous n'avons pas compris le désir de le vivre. Nous n'avons pas compris le pardon de Dieu et que nous voulons en abuser, à l'aide même de belles paroles de regret. Alors Pierre pose une question sur le pardon envers les autres. Et Jésus répond qu'il faut s'inspirer du pardon de Dieu tout d'abord. Cette histoire parle d'un roi qui est prêt à pardonner, à remettre une dette énorme, l'équivalent d'un salaire de 3 millions de journées de travail, si on le traduit. 3 millions de journées de travail. Une vie, ça fait à peu près 40 000 journées de travail. 3 millions. Voilà la dimension du pardon de Dieu. Le roi pardonne à cet homme quand celui-ci supplie le roi de lui effacer sa dette. Mais cet homme, voilà, va refuser par la suite de remettre la dette d'un autre qui lui devait l'équivalent de 100 journées de travail. Et il prouve à travers ce refus qu'il n'a pas compris la vraie dimension du pardon qui lui a été accordé. Ou alors qu'il est prêt à recevoir ce pardon, mais surtout pas à le donner. C'est un profiteur, c'est tout. Conséquence alors, le roi supprime la remise de sa dette. C'est terrible. Et Jésus de conclure, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Le pardon de Dieu est pleinement accordé pour qui le lui demande, mais à une condition qui ne peut se vérifier que plus tard dans notre vie. Si nous ne pardonnons pas aux autres leurs torts envers nous, c'est la preuve que nous n'avons pas compris la dimension du pardon de Dieu envers nous. Ou que, alors, hypocritement, nous avons profité de la gentillesse de Dieu dont le métier serait de pardonner. disait Madame de Sévigné. Non, le pardon de Dieu n'est pas un dû. Alors oui, que c'est difficile de comprendre le pardon de Dieu et de le vivre envers les autres. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui refusait de pardonner à son copain. Alors sa mère l'avertit. Et si le Seigneur revient cette nuit, il ne te prendra pas si tu ne pardonnes pas. Alors le petit garçon réfléchit et il répond, d'accord, je pardonne. Mais s'il n'est pas revenu cette nuit, qu'est-ce que je vais mettre à mon copain demain ? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Dans ce texte que Paul écrit aux chrétiens de Colosse, il a commencé par parler d'une condition qui est nécessaire pour pardonner du fond du cœur. Il a commencé à parler de l'humilité au verset 12 du chapitre 3. L'orgueil nous empêche de demander pardon. C'est lui qui nous pousse à ne pas pardonner ou à ne pas demander pardon. L'humilité, au contraire, nous permet de laisser de côté notre personne pour chercher l'intérêt de l'autre, autant pour recevoir le pardon que pour le donner. L'humilité est une condition pour le vivre profondément. Et Paul ajoute une autre condition qui permet de vivre pleinement le pardon. Par-dessus tout cela, dit-il après, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. L'amour se définit surtout par l'intérêt qu'on porte à l'autre en premier lieu. Il est l'opposé de l'égocentrisme. Le fait de rechercher le bien de l'autre, son bonheur, pousse à lui pardonner sans le laisser avec ses casseroles, avec ses fautes, avec ses dettes. L'en libérer, c'est une preuve d'amour. Et c'est alors renforcé, dit l'apôtre Paul, les liens et la communion qui devraient régner entre nous. La rancœur que nous gardons envers une personne, ce que nous estimons quelquefois comme étant un signe de justice, mais cette rancœur asservit, y compris celui qui refuse de pardonner. Tandis que le pardon libère, autant celui qui a commis une faute que soi-même. Pardonner, c'est aussi se donner la possibilité de ne plus être esclave de pensées d'amertume et de rejet qui nous enlisent et qui sèment un poison qui nous détruit intérieurement. Et c'est donc d'abord une démarche intérieure. Que de lui remettre sa dette. Peut-être parce que la personne qu'on estime nous avoir causé du tort n'en est pas consciente. Nous avons besoin alors d'être libérés de ces pensées mauvaises. Le but de cette attitude, dit Paul, est la paix. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. C'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Verset 15. Le pardon donc procure la paix qui assure la communion et l'unité. Ne pas vivre le pardon entre nous sème le trouble et provoque des divisions. Alors oui, le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Quel privilège de le vivre et d'être assuré du pardon de Dieu qui libère de ce que nous ne pouvons par aucun autre moyen être délivrés. Mais quel privilège aussi de le vivre entre nous, d'accorder le pardon et de le recevoir. Alors, ne nous privons pas de ce cadeau, parce que malheureusement, il est possible de demeurer lié par le refus de demander pardon à Dieu ou aux autres, et aussi par le refus d'accorder ce pardon. Alors que nous puissions connaître la profondeur du pardon du Seigneur pour nous-mêmes et pour que nous le vivions envers les autres.